message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
La semaine dernière, nous avions attaqué le quatrième volet de ce temps magnifique que Israël a vécu sous le règne du roi Ézéchias. Un temps de grande bénédiction, mais aussi un temps de grande lutte, de grand combat. Un temps où le peuple d'Israël était rentré dans une profonde apostasie par rapport à Akaz, le roi, le père d'Ézéchias, qui lui semblait bon de faire passer ses enfants par le feu en sacrifice pour les consacrer au dieu Moloch. Et toutes les conséquences que cela a eues sur son règne, et comment nous avons vu comment Dieu a préservé ce roi Ézéchias qui aurait dû lui aussi passer par le feu en sacrifice, mais qui a été gardé par Dieu et qui va être l'objet entre les mains de Dieu d'un puissant mouvement de réveil et de restauration en Israël. Il nous est dit qu'il n'y a pas eu en Israël un roi comme Ézéchias qui a remis à l'honneur l'Éternel, sa maison et sa loi. Il nous est dit que ce temps de restauration, ce temps de réveil est venu d'une manière soudaine, soudainement. Vous savez, je vous avais dit dimanche que ce mot soudain, c'est exactement pratiquement le même mot pour l'enlèvement de l'Église, en un clin d'œil. Cette chose s'est passée soudainement. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était l'œuvre de l'homme, mais quelque chose qui venait directement du trône de la grâce. Je voudrais vous rappeler ce matin quelque chose de très important. S'il y a un mouvement d'apostasie, de ténèbres dans le monde, et peut-être même sur l'Église, où des chrétiens qui se disent chrétiens s'éloignent du Seigneur, pensant que leur foi est suffisante pour dire qu'ils appartiennent à Jésus, ils se trompent. Et de l'autre côté, dans ce temps de ténèbres, Dieu fait venir sa lumière sur son Église. L'Église du Seigneur a besoin d'être restaurée, d'être réveillée. Elle a besoin de se préparer pour l'enlèvement. Elle a besoin de retrouver le chemin du cœur de Dieu. Et dans ce sens, ce mouvement de restauration et de réveil d'Ézéchias, c'est une leçon pour nous qui arrivons à la fin des temps. Nous disons donc que les choses se sont mises en place. Le peuple de Dieu, grâce à l'obéissance du roi Ézéchias, retrouve sa communion avec Dieu et en même temps, quelque chose d'important, fait à nouveau alliance avec son Dieu. Si à un moment donné de ta vie, tu as coupé tes relations avec Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu et dans ton cœur tu te sens repris par l'Esprit de Dieu, qui vient te convaincre que c'est le temps pour toi de revenir à l'Éternel, pense à faire à nouveau alliance avec ton Seigneur. Et l'alliance avec Dieu ne se fait que par un seul moyen, par le sang. Le sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix pour que toi ce matin, tu sois libéré de toute condamnation et de toute culpabilité. Car dans la nouvelle alliance, il n'y a plus ni condamnation, ni culpabilité, ni peur, ni crainte, parce que cela est évacué de nos cœurs, et en retour, nous recevons la paix du Seigneur. Amen. Donc, ce peuple, au travers de l'obéissance du roi, va rentrer à nouveau dans une alliance avec l'Éternel. Et pas seulement le peuple de Juda et de la tribu de Juda, parce que nous savons que Ézéchias est le roi de la tribu de Juda, du royaume de Juda, mais il avait un cœur pour tout Israël, nous est-il dit, et à cela il voulait associer ses frères qui s'étaient séparés avec les 10 tribus vers le nord, qui eux étaient rentrés dans une totale apostasie en adorant le veau d'or à Dan et à Bethel, et Ézéchias a eu à cœur de leur envoyer des messagers pour dire « Mais revenez à la maison de l'Éternel et faisons la Pâque en même temps, faisons alliance à nouveau en même temps avec l'Éternel. » Et nous avons vu que le fait d'avoir fait cette démarche, il y a eu une séparation dans le peuple d'Israël. Certains se sont humiliés sous la puissante main de Dieu et sont venus faire à nouveau alliance avec Dieu. Et d'autres se sont moqués, ont même insulté les messagers. C'est clair. Et je vous disais dimanche dernier que, ce message que Ézéchias va délivrer pour tout le peuple d'Israël, pour que le peuple revienne à la maison de l'Éternel, pour que le peuple puisse à nouveau rentrer dans la communion avec Dieu, est exactement le même principe qui s'applique pour l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un message sur la terre, un message par les prophètes, où les prophètes viendront dire au peuple de Dieu, mais repentez-vous et convertissez-vous, revenez à l'Éternel. Faites à nouveau alliance avec Dieu pour tous ces chrétiens qui se disent être chrétiens et qui ne le sont pas, et qui ne le sont que de nom, mais pas de cœur. Cela, Dieu les attend, pour faire à nouveau alliance avec lui. Je crois en la grâce et en la miséricorde de Dieu. Je crois que Dieu est encore capable de sauver ce qui est perdu. Et Jésus, il l'a dit, je suis venu sauver pour ce qui est perdu. Je crois en l'amour de Dieu, mais je crois aussi en la justice de Dieu. Et je ne dissocie jamais amour et justice. Parce que certains disent, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et oui, Dieu est amour. Oui, et on n'a besoin que de l'amour de Dieu. Il n'y a pas besoin de justice. Quoi ? Comment veux-tu qu'il y ait l'amour, que l'amour de Dieu, si la justice de Dieu n'a pas été manifestée à Golgotha, en son fils, afin que toi, tu sois délivré de toute condamnation et de toute culpabilité. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Il fallait qu'à un moment donné, le problème du péché soit réglé. Et ça a été réglé par l'offrande de Christ à la croix. C'est la justice de Dieu qui a été manifestée. Alors pourquoi Paul dirait que nous avons été appelés et que nous avons été justifiés, que nous avons été sanctifiés et que nous sommes aussi en voie d'être glorifiés ? Justifiés. Justifiés nous avons été. Par quoi ? Mais par l'amour de Dieu qui s'est manifesté à Golgotha. Et par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc ne dissocions pas amour et justice. Au contraire, l'amour trouve sa plénitude dans la justice. Et la justice trouve sa plénitude dans l'amour. C'est indissociable. La réconciliation avec une partie des 10 tribus du Nord va amener une grande bénédiction sur le peuple. Donc on se rappelle de ce message, n'est-ce pas ? On a bien vu hier, dimanche dernier, tout ce que un réveil peut apporter comme un amour renouvelé dans le cœur des croyants qui à nouveau aime la maison de Dieu, qui aime à nouveau leur Dieu, qui aime ce que Dieu fait, qui aime le royaume de Dieu, qui s'investissent et dans l'amour et dans la paix et dans tout ce que le corps de Christ attend pour qu'il soit dans sa plénitude et qu'il puisse agir conformément à la volonté divine. Et maintenant voilà le résultat de cette obéissance du roi. Il nous est dit dans 2 Chroniques 31, versets 20 à 21, Ézéchias fit ainsi dans tout Juda, il fit, écoutez bien, 2 Chroniques 31, versets 20 à 21, il est dit que Ézéchias fit ainsi dans tout Juda, il fit trois choses. Vous allez me les énumérer. Il fit ce qui est bien, ce qui est bon, ensuite ce qui est ce qui est droit et ensuite ce qui est vrai. Il faut que tu agisses. Et quand tu agisses dans ta vie, il faut que tu fasses ce qui est bien, ce qui est droit et ce qui est vrai. Pas ta vérité, mais la vérité de la parole. À cause de cette chose, Ézéchias, il nous est dit qu'il fit ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Et toute l'œuvre, verset 21, qu'il entreprit dans le service de la maison de Dieu et dans la loi et dans les commandements, vous avez vu qu'il n'y a pas de dissociation entre la maison de Dieu, les commandements et la loi. Ça fait un tout. Tout ça est lié. La maison de Dieu est liée aux lois de Dieu. La maison de Dieu, elle est liée aux commandements de Dieu. L'Église est liée à la parole de Dieu. Tu ne sépares pas. Et qu'est-ce qui nous est dit là? Il est dans toute l'œuvre qu'il entreprit dans le service de la maison de Dieu et dans la loi et dans les commandements pour rechercher son Dieu. Il agit de tout son cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Premier commandement de Jésus. Oui ou non? Et le deuxième commandement, et tu aimeras ton prochain comme... Est-ce que tu t'aimes? Et tu aimeras ton Dieu d'un cœur entier, pas d'un cœur partagé, un cœur entier pour le Seigneur. Il agit de tout son cœur, il nous est dit, et il, qu'est-ce qu'il fit? Il prospérera. Il a prospéré parce qu'il agit de tout son cœur, parce qu'il faisait ce qui était bien, ce qui était bon, ce qui était droit et ce qui était vrai. Tu veux prospérer, agis de tout ton cœur avec les choses qui sont bonnes, qui sont droites et qui sont vraies. Et tu prospéreras. N'agis pas avec la religion. Agis avec ton cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Il nous est dit qu'il prospérera. Il y a eu un tel temps de bénédiction sur Israël après cette restauration de Dieu, après ce réveil que Dieu a suscité. Et quand nous voyons la manière dont Dieu s'y est pris, comment toutes les choses ont été mises en place selon les lois de sainteté de Dieu, comment ils ont purifié le temple, comment ils ont quitté les souillures, comment eux-mêmes se sont sanctifiés et se sont préparés pour servir l'Éternel. Quand nous voyons comment la main de Dieu était sur eux pour leur donner un même cœur, alors, la chose commence à marcher, à fonctionner. Si tu veux voir l'Église fonctionner, prospérer, il faut qu'elle marche dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai, dans ce qui est droit. Il n'y a pas d'accommodation dans l'Église. On ne s'arrange pas avec la parole de Dieu. On ne s'arrange pas avec la parole de Dieu. On ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. On ne fait pas de compromis, surtout avec le péché, dans l'Église du Seigneur. La source qui fait qu'on ne puisse pas prospérer dans nos vies, c'est le fait que nos vies ne soient pas en harmonie avec ce que Dieu nous demande. C'est là le véritable problème. Une des prospérités de l'homme et de la femme dans sa relation avec Dieu, c'est le fait d'avoir libéré sa vie du péché. Parce que l'Écriture nous dit que celui qui cache ses transgressions, celui qui les cache, qui les met sous le boisseau, il nous a dit qu'il ne prospérera point. Mais celui qui les avoue, les confesse et les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons, frères, sœurs? Une prospérité matérielle ou une prospérité spirituelle? Qu'est-ce qui est l'empêchement à un progrès spirituel dans nos vies? C'est le fait que nous ayons laissé entre Dieu et nous des choses qui traînent encore. Dieu veut plus. Le péché a été réglé une fois pour toutes à la croix. Hein. C'est pour ça que Paul dit, pécherions-nous encore? Il va dire, mais qu'ainsi n'advienne. Non, non, non. Nous n'avons pas mis nos membres au service du péché, mais nous avons mis nos membres au service de la justice de Dieu, comme membres de justice. Et si mes membres doivent être mis au service de la justice, les membres du corps de Christ doivent être mis au service de la justice. C'est pareil. Cet homme prospéra. Mais voilà, chaque fois qu'il y a un temps de bénédiction, écoute-moi, Église, franchement, ça, c'est quelque chose que je veux partager avec mon cœur, avec vous. Chaque fois que nous voyons la bénédiction de Dieu arriver sur nos vies, que cette bénédiction commence à envahir nos vies, faisons attention de bien rester attaché au Seigneur et non pas à la bénédiction. Parce qu'il y a un réel et grave danger qui peut arriver. Et nous allons le voir avec Ézéchias. Il a été un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, à un moment donné, Dieu va éprouver son cœur. Il va essayer de montrer à Ézéchias s'il aime plus la bénédiction qu'il a accordée que Dieu lui-même. Eh oui. Vous allez voir que c'est, ça, c'est nos vies, hein. C'est clair que c'est nos vies. Maintenant, voici le temps d'éprouver les bénédictions que Dieu a accordées en abondance à son peuple. Regardons donc au déroulement de la suite de ce récit, une constatation va s'imposer, prendre garde à rester réaliste et être attaché à Dieu plutôt qu'aux riches bénédictions que Dieu nous a dispensées. La tendance fâcheuse qui est la nôtre se traduit ainsi. Lorsque Dieu nous bénit avec largesse, nous avons tendance à jouir de cette bénédiction en reprenant nos mauvaises habitudes. Par exemple, je vais te citer un exemple précis. À un moment donné de ta vie, hein, tu es un peu dans la disette financièrement. Écoute-moi bien, parce que ça, on l'a tous vécu. Et puis tu vois la bénédiction qui arrive de Dieu, et puis qui te donne un peu d'abondance financière. Et tu dis, oh Dieu me bénit, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Le problème, c'est qu'avec cet argent, à nouveau, tu vas tomber dans des travers, tu vas vouloir bénéficier de cette bénédiction pour ton propre plaisir, pour tes propres choses à toi. Et tu vas retomber dans les mêmes travers que tu avais avant que tu aies besoin d'argent. Ça veut dire que tu n'as pas tiré la leçon de ce qui s'est passé avant. Et bien après, tu fais exactement la même chose. Nous allons voir comment Ézéchias, lui, il a fait. Lui, il a été plus fort que nous, vous allez voir. Il a été tellement béni, il en avait tellement partout de l'abondance dans ses biens, parce que Dieu l'avait tellement béni qu'il a fait une erreur. Ça, le banquier, il n'aurait pas fait l'erreur. Le banquier ne t'ouvre pas ses comptes pour savoir combien il y a de comptes dans sa banque. Mais lui, Ézéchias, il va faire une grosse erreur. Alors, nous continuons. Lorsque Dieu nous bénit avec largesse, nous avons tendance à jouir de cette bénédiction en reprenant nos mauvaises habitudes. Cela devient tellement naturel que Dieu nous bénisse que nous en oublions les épreuves que nous avons traversées et nous retombons dans nos travers. Si on a oublié l'épreuve, Dieu nous a bénis, on va jouir de cette bénédiction, mais on n'a pas tiré les conséquences de l'épreuve. Combien de fois ça nous est arrivé, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé? Oui. Personne d'autre? Ça t'est pas arrivé, Philippe? Oui. Ça t'est pas arrivé, Philippe, là-bas? Oui. Et toi, là-bas, tiens, lève le doigt. Ça t'est pas arrivé? Voilà. Oui. On oublie tous que nous sommes des bons dispensateurs de la grâce de Dieu, que nous devons gérer les choses que Dieu nous donne. Non pas pour satisfaire ma chair, mais pour placer ces choses comme un talent que Dieu nous a donné et faire attention à ce qu'on va faire avec. Je vous conseille que quand vous quittez cette église ce matin, d'aller là-bas au petit coin où il y a des affiches, il y a un petit article que je voudrais que vous lisiez en partant. Bon, alors vous ne vous mettez pas tous en même temps, mais lisez-le. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Cela nous fait comprendre que notre humanité pécheresse a besoin de la grâce de Dieu à tous les niveaux. Gérer les bénédictions demande une grande sagesse et surtout un attachement sans faille à Dieu. Alors voilà, tu es béni mon frère, tu crois que tout marche comme sur des roulettes, que la machine elle est bien huilée, que Dieu est à la bonne. Est-ce que Dieu t'a la bonne aujourd'hui? Non, il ne t'a pas donné une bonne. Je te dis, est-ce que il t'a à la bonne? C'est-à-dire, est-ce que Dieu, il est en ce moment en train de faire plein de bonnes choses avec toi? Amen. Voilà, il y en a une qui a dit amen au fond, c'est bien. Toi aussi, amen. Mais ça, c'est une grâce de Dieu, quoi. La grâce de Dieu ne se dilapide pas. Elle se serre sur son cœur. Alors, voilà ce qu'il est dit. Une première mise à l'épreuve fut l'attaque. Oui, alors, tu vois, mon frère, tu es béni. Il y a un réveil. La maison de l'Éternel est rouverte. Des millions de personnes arrivent pour faire alliance avec Dieu. Tout ça est bien beau. Mais quand il y a une bénédiction que Dieu t'envoie, fais attention qu'il y en a un qui n'est pas content. Hein. Il y en a un qui va essayer de te ravir la bénédiction. Et tu sais comment il va faire? Il va se présenter à toi et il va commencer à dénigrer tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors, écoutons. Deux Chroniques, verset 32 à verset 1 à 2. Voilà ce qui se passe. Regardez ce que dit l'auteur. Il dit, après ces choses et cette fidélité, donc, on s'attendrait qu'il y ait quelque chose d'une bénédiction avec ces deux mots. Après ces choses et cette fidélité, voici que Sanchérib, roi d'Assyrie, vient et entre en Judée et campa contre les villes fortes. Il pensait en forcer l'entrée. Et quand Ézéchias vit que Sanchérib venait et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes forts pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville et ils lui aidèrent. Alors maintenant, voilà le problème. Tu es béni par Dieu. Le diable, il veut te ravir la bénédiction. Combien de fois ça nous est arrivé, frères et sœurs? Combien de fois ça nous est arrivé que le Seigneur est en train de bénir nos vies et tout d'un coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas d'espèce ici, C'est pas rien ce Sanchérib là, roi d'Assyrie. Je dis pas de Syrie, d'Assyrie. C'est tout un royaume, un empire. Ils viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu t'attends à être dans la béatitude. Ah, je vais passer des bonnes congés spirituels maintenant. Le Seigneur nous a bénis. Non, l'ennemi vient. Il vient. Et alors, il vient pas n'importe comment. Parce que vous allez voir un petit peu cette attaque. Cette attaque violente du diable contre Ézéchias. Si Dieu te prend entre tes mains pour être un instrument de réveil dans sa main, attends-toi à être attaqué. Si Dieu a un plan avec toi pour être un instrument de Dieu, entre les mains de Dieu, pour qu'un réveil se fasse quelque part, même dans ton église ou ailleurs, peu importe, dans un autre pays, attends-toi et garde-toi par la prière. Parce que l'ennemi, il est là, il va t'attaquer. Toi, tu viens pour bâtir l'église. Tu viens pour exhorter l'église. Tu viens pour édifier l'église. Tu viens pour enseigner l'église. Et le diable, il vient pour détruire l'église. Et tu ne crois pas que dans notre période, dans notre génération, le diable, il n'est pas en train de détruire l'église? Je ne dis pas qu'il vient avec le bulldozer pour renverser les édifices, mais ce n'est pas comme ça qu'il agit. Il agit d'une manière spirituelle. Il va saper ta foi. Il va faire en sorte de faire croire que la bénédiction que Dieu t'a donnée, par l'épreuve, en fait, Dieu te veut du mal. Si ta foi n'est pas fermée. Il est dit... Et c'est Jésus qui le dit, Ils frapperont le berger et le troupeau sera dispersé. Ça, vous avez dans Marc 14, 27. Ils frapperont le berger, le troupeau sera dispersé. S'ils arrivent à atteindre Ézéchias, à nouveau, le peuple, il est capable de repartir dans les autres travers. Ici, ce principe spirituel intervient. Ézéchias subit un assaut sur sa personne et sur la mise en doute de son autorité, mais aussi sur sa foi envers l'Éternel. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que ce roi Sanchérib va dire à Ézéchias. Ça fait peur. Il vient de sortir d'un temps de bénédiction extraordinaire, frères et sœurs. Il vient d'être béni au-delà de ce que vous espérez, au-delà de ce que vous pensez. Il a été béni, il est béni dans ses greniers, béni dans l'abondance des biens, béni parce que la maison de l'Éternel est rouverte, béni parce que le peuple est revenu à l'Éternel. Il a été béni, ce roi. Mais voilà ce qui se passe. Ainsi dit Sanchérib, roi d'Assyrie, « En quoi vous confiez-vous que vous demeuriez assiégé dans Jérusalem ? Ézéchias ne vous incite-t-il pas pour vous livrer à la mort par la faim et par la soif en disant « L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de la main de l'Assyrie. » Vous avez vu le doute ? Vous avez le poison le plus puissant dans le spirituel, c'est le doute. Le doute, c'est l'antifoi. Verset 12, « N'est-ce pas cet Ézéchias ?» Regardez ça. Il revendique cet homme. Il est en train de dire, « N'est-ce pas cet Ézéchias qui a quitté ses hauts lieux et ses hôtels ?» Pourquoi il dit ça ? Il est en train de dire, « N'est-ce pas lui qui a quitté mes lieux d'adoration ?» Pourquoi a-t-il quitté les hôtels ? Il aurait pu lui dire autre chose à Ézéchias. Pourquoi il l'attaque sur le plan spirituel ? Pourquoi il l'attaque en disant, mais c'est lui qui a ôté ses hauts lieux et ses hôtels et qui a parlé à Juda et à Jérusalem disant, vous vous prosternerez devant ce seul hôtel et vous, sur lui vous ferez fumer l'encens. Ne savez-vous pas ce que j'ai fait, moi et aussi mes pères, à tous les peuples des pays? Les dieux des nations, des pays, ont-ils bien pu délivrer leur pays de ma main? Lequel d'entre tous les dieux de ces nations que mes pères ont détruites a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Et maintenant, qu'Ézéchias ne vous trompe pas et qu'il ne vous séduise pas de cette manière et ne le croyez pas, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main ni de la main de mes pères, combien moins votre Dieu vous délivrera de ma main. Ah là 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 là. Quelle erreur il fait ce roi-là. Il est en train de dire que l'Éternel ne pourra pas délivrer ce peuple de la main de ce roi parce que aucune nation n'a pu lui résister, ni à lui, ni à ses pères. Faites attention, parce que là, vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de blasphémer le nom de Dieu. Le résultat, c'est qu'il va mal terminer. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Est-ce que Ézéchias les a trompés quand il a rouvert la maison de l'Éternel et qu'il a rétabli le culte de l'Éternel? Non. Est-ce que Ézéchias les a trompés quand il a voulu refaire l'unité avec la grâce de Dieu du peuple d'Israël? Non. Est-ce que Ézéchias n'a pas permis que l'abondance des biens soit partagée entre les frères et que tout le monde ait eu sa part en surabondance de la part de l'Éternel? Non. En quoi Ézéchias a-t-il trompé le peuple? Mais en rien. On dira toutes sortes de fausses choses contre vous, dit le Seigneur. Des choses qui ne sont pas vraies. Avec des gens qui ont le cœur tordu. Regardez. Et ses serviteurs parlèrent encore contre l'Éternel, le vrai Dieu, et contre Ézéchias, son serviteur. Il écrivit une lettre pour outrager l'Éternel, le Dieu d'Israël, et pour parler contre lui, disant, de même que les dieux des nations des pays n'ont pas délivré leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. et crièrent à haute voix en langue judaïque au peuple de Jérusalem qui était sur la muraille pour leur faire peur et pour les épouvanter. Frères et sœurs, voilà l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi va venir te faire peur. Il va venir t'épouvanter. Pourquoi faire ? Pour saper ta foi. Il viendra saper ta foi en te disant, mais l'Éternel, il ne peut pas faire cette chose pour toi. Qui es-tu pour qu'il te fasse quelque chose ? Dieu, en fait. Mais tu lui réponds, moi je suis un enfant du Dieu très haut. Et l'Éternel est mon Père. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Ils crièrent pour leur faire peur et les épouvanter. Quelle épreuve et quel test de la foi est imposé à Ézéchias ? Mais voilà, voyez-vous, cette épreuve-là, il y a une raison. Pourquoi Dieu a permis que cette épreuve se passe ? Pourquoi qu'il a permis que Ézéchias soit confronté à cette situation dans laquelle il devait manifester sa foi à l'Éternel pour être gardé par lui. Imaginez toute une armée aussi nombreuse que des sauterelles qui étaient autour de Jérusalem pour détruire Jérusalem. Regardez ce que Dieu dit. Ça, c'est dans le Deutéronome chapitre 8, verset 22. Il va dire ceci. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais mes commandements ou non. Frères et sœurs, l'épreuve que nous pouvons passer peut parfois nous aider à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit cela ? Ça s'est passé déjà dans le jardin de l'Éden. C'est pas d'hier, hein. C'est pas d'avant-hier. C'est depuis le départ. Et Dieu peut-il te sortir de ce problème ? C'est pas nouveau. Mais voilà qu'Ézéchias, il n'est pas seul. Et toi, tu n'es pas seul dans l'épreuve. Tu as d'abord ton Dieu, puis tu as tes frères, tu as tes sœurs, tu as la prière des frères et des sœurs. Vous ne voyez pas ? Quand on passe dans une épreuve, on vient se confier, j'ai besoin, frère, que tu pries pour moi, j'ai besoin, sœur, que vous nous portiez dans la prière. Eh bien, Ézéchias, lui, il avait un sacré compagnon de prière, hein. C'est Ésaïe le prophète. Alors ils vont prier ensemble. Ils vont prier ensemble. Il est dit dans 2 Chroniques 32, verset 20-23, et le roi Ézéchias et Ésaïe le prophète, fils d'Amos, prièrent à se juger, ils crièrent au ciel. Vous voyez, combien de fois je vois le mot crier, moi. Seigneur, s'il te plaît, tu peux me faire ce petit Seigneur, mon Dieu, entends le cri de mon cœur. J'ai besoin que tu m'aides. Ils crièrent au ciel. Belle épreuve, hein? Une grosse belle épreuve devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier? Oh Seigneur, si tu pouvais faire ça, tu sais. Tu cries vers le Seigneur. C'est le cri de ton cœur qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas ta prière religieuse. Il en a marre, le Seigneur, il en a marre de ça, tu comprends. Et l'Éternel envoya quoi ? Il envoya un ange. Ah, la délivrance est de par l'Éternel. Il envoie un ange. Il n'a pas dit une légion, hein ? Un ange. qui extermina tous les hommes forts et vaillants et les princes et les capitaines dans le camp du roi d'Assyrie. Il s'en retourna la honte au visage dans son pays. Dis donc, ne va pas te confronter à Dieu. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu en disant je suis tout suffisant ou toute suffisante. Ma foi est certainement certaine. Ce que je crois est la vérité. Oui, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu crois. Les démons aussi, ils croient que Dieu existe hein, et ils tremblent. Mais toi, tu crois que Dieu existe et tu ne trembles pas parce que tu continues à faire ton micmac, à trafiquer avec les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, à continuer à invoquer des choses qui ne sont pas agréables à Dieu et tu veux que Dieu te réponde. Tant que tu ne te seras pas humilié sous la puissante main de Dieu, Dieu ne te répondra pas. Ce sont vos péchés, vos iniquités qui ont mis un mur entre moi et vous, dit l'Éternel. Il faut que ce mur tombe parce que Jésus l'a renversé pour nous. Il est dit que comme il entrait dans la maison de son Dieu, ce fameux Sanchérib, il dit qu'il s'en retourna la honte au visage dans son pays, et comme il entrait dans la maison de son Dieu, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ça veut dire que ses propres fils l'ont tué par l'épée dans la maison de leur Dieu, qui soi-disant, ce Dieu-là ne les délivrerait pas des mains de l'Éternel, que c'était eux les plus forts. Celui qui avait insulté, outragé, blasphémé le nom de Dieu, il l'a payé cher. On ne s'amuse pas avec Dieu. Ce que l'homme a semé, il le récolte. Il le récoltera. J'aime ce message. J'aime ce message parce que il est sans concession, ce message. Il est là pour nous ouvrir les yeux. Il nous dit, et l'Éternel, verset 22, sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et les protégea tout à l'alentour. Et beaucoup de gens apportèrent, voilà, Dieu te délivre d'une épreuve, t'as le cœur disposé à donner. Et beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, mais des choses précieuses à Ézéchias, roi de Juda. Après cela, il fut élevé aux yeux de toutes les nations. Alléluia. L'attaque qui eut lieu là, frères et sœurs, c'est une attaque pour saper l'autorité d'Ézéchias vis-à-vis de toutes les nations aux alentours. Il a reçu une attaque directe de Satan sur sa vie. Mais ce n'est pas fini. Il a été pris en cible en tant qu'autorité sur un pays. Maintenant, voilà que il va être éprouvé en tant qu'individu. C'est pas pareil. En tant que roi, il avait la pluie du prophète Ésaïe, la pluie de son peuple. Et Dieu l'a délivré par sa puissante main. Dieu n'admet pas qu'on mette en doute sa puissance, son autorité et son trône de majesté. Comment tu as l'audace de dire « L'Éternel ne pourra pas te délivrer de ma main ?» Quelle audace ce roi ! Quelle fierté ! Imbue de sa personne. Mais vous savez pourquoi il a parlé comme ça, ce roi-là ? C'est parce que le père d'Ézéchias, il avait fricoté avec eux. Il avait même vu l'autel des holocaustes que le roi d'Assyrie avait fait à Damas. Il en avait rapporté les plans, souvenez-vous. Il avait dit au sacrificateur de faire l'autel selon les plans de ce roi d'Assyrie. Il avait substitué l'autel des holocaustes de l'Éternel par rapport à cet autel où on sacrifie à d'autres dieux. Mais quelle honte! Et Ézéchias, lui, il est en train d'hériter de cette haine. Il s'attaque à lui. Alors, écoute-moi bien. Tu passes un temps de bénédiction. Alléluia. Dieu te bénit. Dieu te répond à tes prières. tu prospères spirituellement, financièrement. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois, bam, la machine elle s'arrête. Mais où est passé Dieu? Comment ça se fait que c'est comme ça? Mais tu n'as pas compris. C'est que tu dois savoir gérer la bénédiction de Dieu. Tu crois que Dieu va te bénir constamment? Oui, alléluia, il va le faire. Mais il y a un moment donné, il faut qu'il éprouve ce qu'il y a dans ton cœur. Pour savoir si cette bénédiction que Dieu t'accorde suscite en toi plus la joie d'avoir reçu de Dieu que de t'attacher au Dieu lui-même. La réponse ne s'est pas faite attendre à la prière de la foi. Quelle pire situation que d'être menacé de destruction en constatant le peu de résistance que nous pourrions offrir à nos ennemis. Le découragement face aux provocations en déniant que le Dieu d'Israël ne pourrait pas intervenir dans cette affaire en le rabaissant au même rang que les dieux des nations. Les menaces directes contre l'incapacité du roi à pouvoir libérer son peuple de l'oppresseur, mettant en doute la puissance de Dieu et provoquant la peur dans le peuple. Il écrivit une lettre pour outrager, pour insulter le Dieu d'Israël. Je vous rappelle ce que Dieu avait dit dans la loi, particulièrement dans Lévitique 24, verset 16, Dieu dit, tu parleras au fils d'Israël en disant, tout homme qui aura maudit Dieu portera son péché. Et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera certainement mis à mort. Toute l'assemblée ne manquera pas de le lapider. On mettra à mort tant l'étranger que l'Israélite de naissance lorsqu'il aura blasphémé le nom. Et vous croyez que Dieu n'allait pas appliquer ce principe spirituel qu'il avait donné à son peuple? Sanchérib, il faisait une grosse bêtise de vouloir s'opposer à Dieu en insultant le nom de Dieu. Sa fin est une fin calamiteuse. Il se fait tuer par ses propres fils dans la maison de son Dieu. Donc son Dieu n'a pas pu le protéger. Il prétendait que ce Dieu-là était plus grand que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ne va jamais lutter contre Dieu, s'il te plaît. Et surtout contre le vrai Dieu. Ne va jamais lutter contre lui. Tu n'auras pas gain de cause. Cette histoire d'Ézéchias, on la trouve dans deux livres, encore de l'Écriture, dans le livre des Rois et dans le livre du prophète Ésaïe. Bien sûr, comme Ésaïe était partie prenante de cette partie historique du règne d'Ézéchias, puisqu'il vivait en son temps, lui aussi a écrit dans son livre concernant ces événements-là, on va le voir là maintenant, ainsi que dans le livre des Rois, où on trouve aussi des bribes de ce réveil du temps du roi Ézéchias. C'est ce que nous allons voir maintenant pour essayer d'affiner un petit peu notre compréhension de ce texte des chroniques. Par exemple, dans le livre du roi, le deuxième livre du roi, au verset 19 et verset 22, il est dit, et là vous savez qu'il nous est dit que Ézéchias et Ésaïe prièrent. Mais la prière, on ne la connaît pas. Mais elle est dans l'Écriture. Vous allez la trouver dans le livre d'Ésaïe ou dans le livre des Rois. Elle est. Et si vous écoutez cette prière, vous allez voir pourquoi Dieu va délivrer Israël. On va regarder ça. Alors, de Rois 19 et verset 22. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez en la véracité de la parole de Dieu? Eh oui. « acte 2, voilà. Le verset 22 est là. Il dit, « Qui as-tu outragé et blasphémé ? Et contre qui as-tu élevé la voix ? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux d'en haut. » Maintenant, regardez la prière que Ézéchias a fait avec le prophète Ésaïe. Je vais vous la lire parce qu'elle est tellement belle. Regardez comment Ésaïe va s'y prendre, Ézéchias va s'y prendre pour prier l'Éternel. Il est dit ceci dans le verset 14 de Roi 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta dans la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria l'Éternel et dit, Éternel, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, toi le même, toi seul tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Toi tu as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et vois. Et écoute les paroles de Sanchérib qu'il a envoyées pour outrager le Dieu d'Israël. Il est vrai, Éternel, les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs pays et ont jeté au feu leurs dieux. Car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont détruites. Et maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous, je te prie, de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi, Éternel, tu es Dieu, toi seul. Et Ésaïe, fils d'Amoth, envoya vers Ézéchias disant, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie, je l'ai entendue. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. La Vierge de Sion te méprise, elle se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé ? Et contre qui as-tu élevé la voix ? C'est contre le Saint d'Israël que tu as élevé tes yeux en haut. Par tes messagers, tu as outragé le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le haut des montagnes, les parties reculées du Liban, et je couperai ses hauts cèdres, l'élite de ses cyprès, et je parviendrai jusqu'à son dernier gîte, à la forêt de son Carmel. J'ai creusé, j'ai bu des eaux, etc. Verset 28. Parce que tu es plein de rage contre moi et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai mon anneau à ton nez et mon frein entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et verset 31, il est dit, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Vous avez vu la prière de Ézéchias ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a commencé à exposer ses demandes ? J'ai besoin que tu m'envoies. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Si tu veux, à un moment donné, que ta prière soit efficace, avant de passer dans la demande, rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Déclare ta louange et ton adoration à Dieu. Dis-lui, tu es éternel, tu es le même, tu es le seul vrai Dieu. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, toi qui es assis entre les chérubins, toi seul es le seul vrai Dieu, et tu confesses le nom de Dieu. Et en confessant le nom de Dieu, tu es en train de déclencher l'adoration, et Dieu va être propice à ton égard. Et ta prière sera entendue de Dieu. D'ailleurs, vous avez vu nos prières? Des prières, on dirait des arêtes de sardines salées. Nos prières maigrichonnent. Je te demande, Seigneur, je te demande, Seigneur. Mais à aucun moment dans nos prières, il y a rendre gloire à Dieu. Je te loue de ce que tu es mon Dieu. Je te loue de ce que je sais que tu réponds, Seigneur, tu réponds à nos prières. Tu n'es pas un Dieu sourd. Je proclame que tu es Dieu, que tu règnes. Que tu règnes sur la situation que je vis. Que tu règnes sur les choses que j'ai dans mon cœur, Seigneur. Je te loue, je t'engrage, je te bénis de tout mon cœur. À toi l'élévation, à toi la louange, toi qui ne changes pas, toi qui es le Dieu qui ne varie pas, car il n'y a pas d'ombre de variation en toi, mon Seigneur. Et si tu es dans cet état de louange et d'adoration, tu crois que Dieu ne va pas te répondre? Maintenant, si tu viens avec un chapelet de demandes, Peut-être dans sa miséricorde encore tu t'entendras, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais ce que je sais, c'est que Dieu se plaît dans la louange et dans l'adoration. Qu'il n'y ait aucun moment de notre vie où nous ne puissions pas rendre gloire à Dieu. Tu sais, c'est si facile dans l'esprit de rendre gloire à Dieu. Voilà, tu commences. Je te loue parce que tu m'as sauvé. Je te loue parce que ton sang m'a purifié. Et c'est pas vrai tout ça. Mais la confession de foi, elle est puissante. Je te loue de ce que tu m'as sauvé des grandes eaux. Je te loue parce que tu m'as donné un avenir. Je te rends grâce, gloire, parce que tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une descendance. Je te bénis de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que ça sort d'un cœur d'adorateur. Alors, vous avez compris, hein? Dieu d'Israël qui est assis entre les chérubins, toi le même, toi seul, tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre, y compris de celui de la Syrie, hein? Tu es Et Jésus est le roi des nations. Dieu lui a donné en héritage toutes les nations, y compris la Syrie. Le royaume d'Assyrie, mais le royaume de Syrie aujourd'hui. Même à Al-Assad, lui, il va passer par là. Il retarde l'échéance, mais il va passer comme les autres. Plus tu t'entêtes, et plus c'est difficile. Plus tu t'obstines, plus tu résistes, et plus tu es éprouvé. Vous me supportez encore un peu? Alors, je vous disais tout à l'heure que suite à cette épreuve, les questions de l'Église qui subit des assauts, mais les questions aussi des serviteurs qui vont subir les assauts aussi. Attends, s'il frappe la tête, l'Église tombe. Là, il va essayer de frapper la tête d'Ézéchias, mais Ézéchias, malheureusement, il va là. Ne vous habituez pas trop aux bénédictions de Dieu. Parce que le jour où vous en manquerez, vous allez dire, mais Dieu m'a oublié. Suite à cet épisode qui aura testé ce qui est dans le cœur d'Ézéchias, voilà qu'arrive une autre épreuve. L'épreuve personnelle qui n'a rien à voir avec le peuple, mais avec l'individu. Et alors là, 2 Chroniques, verset 32, verset 24 à 26, il nous est dit, en ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il pria à l'Éternel, et l'Éternel lui parla et lui donna un signe. Mais, nous allons voir quel était ce signe, mais Ézéchias ne rendit pas en raison du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et il y eut de la colère contre lui, contre Juda et contre Jérusalem. Alors vous allez voir que là, ça a une conséquence terrible. Vous savez ce que Dieu a fait? À nouveau, Dieu lui envoie le prophète. Le prophète va lui annoncer, voilà, parce que tu t'es humilié, parce que tu as versé des larmes devant moi, dit l'Éternel, je vais te donner un signe et je vais rallonger ta vie de 15 ans. Et qui voudrait voir ça rallonger de 15 ans? En sachant que Dieu a prévu par exemple 80 ans de ta vie et puis qu'il te dit je la rallonge de 15 ans. Une rallonge. Ézéchias, il est tellement habitué aux bénédictions de Dieu, Dieu va lui donner un signe. D'abord, avec Sanchérib, il va faire reculer le soleil, mais là, il va lui donner un autre signe. Ézéchias, 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 Ézéchias va venir le voir, il va lui donner un modèle de guérison que vous n'avez jamais vu. Vous savez, dans les églises évangéliques, hein, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et vas-y que je t'impose les mains, que je t'impose les mains, et puis les malades sont guéris, mais tu continues à imposer les mains. Il va leur lui donner un remède . Tu vas prendre un emplat de figues. Des figues. Tu vas le mettre sur l'ulcère. Il devait avoir des ulcères sur les jambes. Et tu seras guéri. Nous, on aurait dit, viens ici, Ézéchias. Paf ! Au nom de Jésus, sois guéri. Dieu dit non. Tiens, prends des figues. Oh, des figues, Seigneur. Mais t'es pas dit qu'on imposait les mains aux malades qui devaient être guéris? Pourquoi des figues? Alors je vais vous dire une chose ce matin. Sachez que toute la création de Dieu, tout ce que Dieu a fait, est bon pour nous. Il y a des remèdes dans la nature qui sont capables de te guérir. Dieu peut te mettre des figues sur un ulcère. Moi je me rappelle de mon temps, quand on avait un panari plein de pus, un furoncle plein de pus à un doigt de pied, un truc comme ça, on prenait de la tomate. On se faisait un bandeau avec la tomate, on le mettait sur le pu, deux jours après, c'était fini, il n'y avait plus de pu. Merci tomate. Non mais c'est vrai. Donc il y a dans la nature que Dieu a créée, il y a des possibilités de guérison dans les choses que Dieu a créées. Et moi ce qui m'étonne, c'est que Ésaïe soit venu lui dire, mets-toi un emplâtre de figues sur tes ulcères et tu vas être guéri. Mes frères et sœurs, il a été béni parce que les figues ont fait leur effet. Et les ulcères sont partis. Alors, je ne te dis pas que si tu as un ulcère, remets des figues dessus. Je ne sais pas si ça marchera. Mais avec Ézéchias, ça a marché. Donc, ce que je voulais vous dire, et ça, c'est, je le prends un petit peu comme ça, mais attention, parce que Dieu il a des divers moyens de nous guérir. Hein. Ne lui imposons pas nos doctrines bibliques. Et ne me venez pas dans les mois qui viennent en disant, frère, j'ai mis des asperges sur... ou j'ai mis des... Non, ne me dites pas ça. Ésaïe 38, verset 21-22, Ésaïe avait dit qu'on prenne une masse de figues, qu'on la mette comme emplâtre sur l'ulcère, et il se rétablira. Et Ésaïe avait dit, quel est le signe que je montrerai à la maison de l'Éternel? Et justement, ce signe, c'est qu'il a été rétabli, et il a été guéri par ce remède qui a été donné. Vous le trouvez ça dans Ésaïe 38, hein, et verset 21-22. On va lire peut-être dans Ésaïe 38, parce que ça vaut le coup de lire dedans. Ésaïe 38, il y a tout un chapitre. On va peut-être le lire. C'est bien pour notre édification. En ce jour-là, verset 1, Ézéchias fut malade à la mort. Ésaïe, le prophète, vint d'Amoth. Vint vers lui et lui dit, ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel et dit, hélas Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité avec un cœur parfait et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. La parole de l'Éternel vint à Ésaïe disant, va et dis à Ézéchias, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai 15 années à tes jours. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et ceci en sera le signe pour toi, de par l'Éternel, car l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée. Voici, je ferai retourner en arrière de 10 degrés l'ombre des degrés qui est descendue sur le cadran d'Akaz par le soleil. Et le soleil retourna sur le cadran de 10 degrés dont il était descendu. Écrit d'Ésaïe, roi de Juda, quand ayant été malade, il fut rétabli de sa maladie. Moi, je disais, au méridien de mes jours, j'irai dans les portes du Shéol et je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai pas Yah dans la terre des vivants. Avec les habitants du lieu où tout a cessé, je ne contemplerai plus l'homme. Ma durée s'en est allée, elle est transportée loin de moi comme une tente de berger. J'ai comme le tisserand coupé de ma vie. Il me séparera de la peine du jour à la nuit. Il en aura fini avec moi. J'ai possédé mon âme jusqu'au matin. Comme un lion, ainsi, il me brisait tous les os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Comme une hirondelle, comme une grue, ainsi je grommelais, je gémissais comme une colombe. Mes yeux se sont consumés en regardant en haut. Seigneur, je suis opprimé. Garantis-moi, que dirais-je? Il m'a parlé et lui l'a fait. J'irai doucement dans mes années, dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par les choses on vit et en toutes ces choses est la vie de mon esprit. Tu m'as rendu la santé, tu m'as fait vivre. Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Car ce n'est pas le Séol qui te louera, ni la mort qui te célébrera. Ceux qui ne s'attendent plus à ta vérité, le vivant, est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui. Le Père fera connaître au Fils ta vérité. Éternel a voulu me sauver. Ésaïe avait dit qu'on prenne une masse de figues et qu'on la mette comme un plâtre sur le cerf et se rétablira. Ézéchias avait dit, quel est le signe? Je montrerai à la maison de l'Éternel. Alors là, frères et sœurs, voilà qu'il est béni de Dieu. Mais cette bénédiction de Dieu ne l'a pas gardé dans l'humilité. Ce coup-ci, maintenant, il va déraper complètement. Il va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va montrer au roi des nations comment Dieu l'avait béni. Et pour ça, il va faire venir le roi de Babylone, il va lui montrer tous ses trésors. Erreur. Ne dis jamais ce que tu as dans la banque. Quelle erreur fatale. Il a tout montré, tout ce qu'il y avait dans ses trésors. Tu comprends que si tu montres tout ce qu'il y a dans ton compte, il y en a qui pourraient t'envier. C'est ce qui s'est passé. Le roi de Babylone a vu. Quelques temps plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Ce même roi de Babylone est venu et il a tout pris, tout pillé et tout emporté avec lui. Et Ésaïe va le reprendre. Quand il va montrer tous ses trésors au roi de Babylone, Ésaïe va le reprendre et va lui dire quelque chose. Ce que tu as fait là, tu vas le payer. Et oui, tu n'as pas le droit de t'amuser avec les bénédictions de Dieu. Ésaïe, le prophète, vint, chapitre 39, verset 3. Le roi Ézéchias lui dit, « Qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias dit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias dit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et que ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera porté à Babylone. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et on s'en prendra à tes fils qui sortiront de toi que tu auras engendré. Ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias dit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Puis il dit, car il y aura paix et stabilité dans mes jours. Eh bien voilà, frères et sœurs, ne te vante pas des bénédictions de Dieu. Ne dis pas, regardez comme Dieu m'a béni. Et j'ai une nouvelle Mercedes 300 SL, regardez la bénédiction de Dieu. Quand Dieu nous bénit, restons dans l'humilité, serrons la bénédiction sur notre cœur et surtout savons gérer la bénédiction. Alors, sachons gérer la bénédiction parce que c'est quelque chose que Dieu attend de nous pour que nous ne tombions pas à demander bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Parce qu'à un moment donné, il y a un grand piège, c'est de s'attacher à la bénédiction plutôt que de s'attacher au Dieu de la bénédiction. Ézéchias, lui, a fait cette erreur. À la fin de sa vie, il a ouvert grand les trésors que lui-même avait amassés par la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous, il y avait abondance quand le réveil est venu. Il y en avait en surabondance. Il nous a dit en surabondance. Ça a été entassé dans les trésors de la maison de l'Éternel. Mais à un moment donné, l'orgueil lui a fait ouvrir ses portes et ses ennemis ont vu. Quelque temps après, l'affaire, elle était réglée. Il a bien commencé à l'âge de 25 ans. Il a aimé la maison de l'Éternel. Mais je crois que ce feu de ce premier amour qu'il a eu pour Dieu, à un moment donné, s'était stoppé avec le temps. Il s'est assis dans la bénédiction. Il a été tellement béni qu'il s'est assis dans la bénédiction et qu'il a oublié un peu cette relation avec son Dieu. Et Dieu a fait en sorte de l'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Attends-toi à ce que Dieu éprouve pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. S'il y a vraiment l'amour du Seigneur, s'il y a la foi, et si tu ne t'attaches pas plus à ce que Dieu te donne qu'à ce qui est vraiment du Dieu lui-même. Amen. Voilà une bonne leçon à retenir, n'est-ce pas? Voilà une bonne leçon. Et cette histoire se termine comme ça. Vous savez, le fameux mot de l'histoire, c'est quoi? C'est que cet homme qui pendant 15 ans a bénéficié d'un sursis de la part de l'Éternel, qui aurait dû, ces 15 ans, consacrer sa vie à Dieu, il a construit des maisons, il a dilapidé la bénédiction de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Son fils a vu la manière dont son père vivait, et ce fils qui est venu lui succéder, ça a été le plus mauvais roi d'Israël, le roi Manassé. Voyez l'écriture, il n'y a pas eu de roi aussi mauvais que lui dans tout Israël et de tous les temps. Ça veut dire attention à ce que nous faisons, nous qui sommes responsables, au vu de nos enfants qui nous regardent. Parce que si nous prétendons être au Seigneur et que nous faisons tout le contraire de ce que nous disons, nous sommes un exemple déplorable pour nos enfants et ça aura une répercussion sur la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.